Chapitre 3. Historien. 9. Janov Pelorat avait les cheveux blancs, et ses traits au repos étaient plutôt inexpressifs. Ses traits étaient d'ailleurs le plus souvent au repos. Il était de taille et de corpulence moyenne, et tendait à se mouvoir sans hâte et à ne s'exprimer qu'après mûre réflexion. Il paraissait beaucoup plus que ses 52 ans. Il n'avait jamais quitté Terminus, détail des plus inhabituels, surtout pour un homme de sa profession. Lui-même n'aurait su dire s'il avait ses manières casanières à cause de, ou bien malgré, son obsession pour l'histoire. Une obsession qu'il avait prise soudainement à l'âge de 15 ans, lorsque, à la faveur de quelque indisposition, on lui avait offert un recueil de légendes antiques. Il y avait découvert ce leitmotiv d'un monde isolé et solitaire, un monde qui n'avait même pas conscience de cette isolation car il n'avait jamais connu rien d'autre. Son état avait aussitôt commencé de s'améliorer. En l'espace de 2 jours, il avait lu 3 fois le livre et quittait le lit. Le lendemain, il était derrière sa console, à chercher dans les banques de données de la bibliothèque universitaire de Terminus les traces éventuelles de légendes analogues. C'était précisément de telles légendes qu'il avait accaparées depuis. Certes, la bibliothèque universitaire de Terminus ne l'avait guère éclairé sur ce point, mais en grandissant, il avait appris à goûter les joies des prêts interbibliothécaires. Il avait en sa possession des tirages qui lui étaient parvenus par hyperfaisceau, de régions aussi éloignées que Ifnia. Il était ensuite devenu professeur d'histoire antique et se retrouvait aujourd'hui, 37 ans plus tard, au seuil de son premier congé sabbatique. Congé demandé dans l'idée d'effectuer un voyage spatial, son premier, jusqu'à 30 heures même. Pelorat était tout à fait conscient qu'il était fort inhabituel pour un citoyen de Terminus de n'avoir jamais été dans l'espace. Mais ce n'était nullement de sa part un désir de se singulariser. Simplement, chaque fois que s'était présentée pour lui l'occasion de partir, quelque ouvrage nouveau, quelque étude originale, quelque analyse inédite l'avait retenu. Il reportait alors le voyage projeté, le temps d'épuiser ce sujet neuf, et si possible d'y contribuer en ajoutant un nouvel élément, une nouvelle hypothèse, une nouvelle idée à la montagne déjà amassée. En fin de compte, son unique regret était de n'avoir jamais pu effectuer ce voyage à Trentor. Trentor avait été la capitale du premier empire galactique, la résidence des empereurs 12 siècles durant, et avant cela, la capitale de l'un des plus importants royaumes pré-impériaux qui avait peu à peu capturé, ou du moins absorbé, les royaumes voisins pour aboutir à cet empire. Trentor avait été une cité de taille planétaire, une cité caparaçonnée de métal. Pelorat en avait lu la description dans les œuvres de Gal Dornick, qu'il avait visité du temps d'Aris Eldon lui-même. L'ouvrage de Dornick était épuisé, et l'exemplaire que détenait Pelorat aurait pu être revendu la moitié du salaire annuel de l'historien, lequel aurait été horrifié à l'idée qu'il pût s'en dessaisir. Ce qui, sur Trentor, intéressait Pelorat, c'était bien évidemment la bibliothèque galactique, qui, du temps de l'Empire, c'était alors la bibliothèque impériale, avait été la plus grande de toute la galaxie. Trentor était la capitale de l'Empire le plus vaste et le plus peuplé que l'humanité ait jamais connu. Ville unique, recouvrant une planète entière et peuplée de plus de 40 milliards d'habitants. Sa bibliothèque avait réuni l'ensemble des œuvres plus ou moins créatives de l'humanité, recueilli la somme intégrale de ses connaissances, le tout numérisé de manière si complexe qu'il fallait des experts en informatique pour en manipuler les ordinateurs. Qui plus est, cette bibliothèque avait survécu. Pour Pelorat, c'était bien là le plus surprenant de la chose. Lors de la chute et du sac de Trentor, près de 2 siècles et demi plus tôt, la planète avait subi d'épouvantables ravages et sa population souffert au-delà de toute description. Et pourtant, la bibliothèque avait survécu, protégée, racontait-on, par les étudiants de l'université, équipés d'armes ingénieusement conçues. D'aucuns pensaient toutefois que la relation de cette défense par les étudiants pouvait bien avoir été entièrement romancée. Quoi qu'il en soit, la bibliothèque avait traversé la période de dévastation. C'est dans une bibliothèque intacte, au milieu d'un monde en ruine, qu'avait travaillé Ebling Miss lorsqu'il avait failli localiser la seconde fondation, selon la légende à laquelle les fondateurs croyaient encore, bien que les historiens l'eussent toujours considéré avec quelques réserves. Les trois générations de Darrell, Beïta, Toran et Arcadie, étaient chacune, à un moment ou à un autre, allées sur Trantor. Arcadie, toutefois, n'avait pas visité la bibliothèque, et depuis cette époque, ce lieu ne s'était plus immiscé dans l'histoire galactique. Aucun membre de la Fondation n'était retourné sur Trantor en 120 ans, mais rien ne permettait de croire que la bibliothèque ne fût pas toujours là. Qu'elle ne se fût pas fait remarquer était la plus sûre preuve de sa pérennité. Sa destruction aurait très certainement fait du bruit. La bibliothèque de Trantor était archaïque et démodée, elle l'était déjà du temps d'Ebling Miss, mais ce n'en était que mieux pour Pellorat qui se frottait toujours les mains d'excitation à l'idée d'une bibliothèque à la fois vieille et démodée. Plus elle l'était, vieille et démodée, et plus il aurait des chances d'y trouver ce qu'il cherchait. Dans ses rêves, il se voyait entrer dans l'édifice et demander, haletant d'inquiétude, « La bibliothèque a-t-elle été modernisée? Avez-vous jeté les vieilles bandes et les anciennes mémoires ?» Et toujours, il s'imaginait la réponse d'antique et poussiéreux bibliothécaire. « Telle qu'elle fut, professeur, telle vous la trouvez. » Et voilà que son rêve allait se réaliser. Madame le maire en personne l'en avait assuré. Comment elle avait eu vent de ses recherches, il n'en avait guère idée. Il n'avait pas réussi à publier grand-chose. Bien peu de ses travaux méritaient une communication et les quelques-uns à avoir été publiés n'avaient guère laissé de traces. Pourtant, on disait que Brano, la dame de bronze, était au courant de tout ce qui se passait sur Terminus et qu'elle avait des yeux jusqu'au bout des doigts et des orteils. Pellorat était prêt à le croire. Mais si elle connaissait ses recherches, pourquoi diable n'en avait-elle pas discerné l'importance en lui accordant un peu plus tôt un modeste soutien financier? En quelque sorte, songea-t-il en se forçant à être le plus amer possible, la Fondation garde les yeux obstinément fixés sur l'avenir. Ce qui lui importait, c'était l'avènement du Second Empire et sa destinée future. Elle n'avait ni le temps ni le désir de se pencher sur son passé, et ceux qui le faisaient avaient tendance à l'irriter. C'était manifestement fort bête, mais il ne pouvait pas à lui tout seul combattre la bêtise. Et puis, cela valait peut-être mieux. Il se gardait ainsi pour lui ce grand dessein, et le jour finirait par venir où l'on reconnaîtrait en Janov Pellorat le grand pionnier de la quête fondamentale. Ce qui bien sûr voulait dire, et il avait trop d'honnêteté intellectuelle pour ne pas l'admettre, que lui aussi avait les yeux tournés vers l'avenir. Un avenir dans lequel il se verrait reconnu et considéré comme un héros, l'égal de Harry Seldon, plus grand même, en fait. Car que pesait une prospective établie sur 1000 ans dans l'avenir face à la révélation d'un passé enfoui et remontant au moins à 25 millénaires? Et voilà que son heure avait enfin sonné. Son heure était venue. Le maire lui avait dit que ce serait pour le lendemain de l'apparition de l'image de Seldon. C'était pour cette seule raison que Pellorat s'était d'ailleurs intéressé à la crise Seldon, qui depuis des mois occupait l'esprit de tous sur Terminus, voire dans toute la Fédération. Ça ne lui aurait personnellement fait ni chaud ni froid que la capitale de la Fondation restât sur Terminus ou fût transférée ailleurs. Et maintenant que la crise était résolue, il n'aurait su dire avec certitude quelle partie Seldon avait finalement soutenue, voire même s'il avait abordé le dit sujet. Il lui suffisait de savoir que Seldon était apparu et donc que son heure avait sonné. Ce fut peu après 2 heures de l'après-midi qu'un glisseur s'immobilisa dans l'allée devant sa demeure quelque peu isolée à la sortie de Terminus. Une porte coulissa à l'arrière du véhicule. En descendit un garde portant l'uniforme des compagnies de sécurité de la mairie, puis un jeune homme, puis enfin 2 autres gardes. Pellorat fut impressionné malgré lui. Non seulement Madame le maire connaissait ses travaux, mais à l'évidence elle y attachait la plus haute importance puisque l'homme qui devait l'accompagner se voyait doté d'une garde d'honneur. Sans parler qu'on lui avait promis un vaisseau de première classe, que cet homme pourrait justement piloter. Décidément, très flatteur. Très... Sa gouvernante ouvrit la porte. Le jeune homme entra et les 2 gardes prirent position de part et d'autre de l'entrée. Par la fenêtre, Pellorat vit que le 3e homme était demeuré à l'extérieur et qu'un 2nd glisseur venait de s'arrêter. Encore 2 gardes. Troublant. Il se retourna pour accueillir le jeune homme et découvrit avec surprise qu'il le reconnaissait. Il l'avait vu en holovision. « Mais vous êtes ce conseiller. C'est vous, Trévise ?»«
Golan Trévise, effectivement. » »« Et vous, le professeur Janov Pelorat ?»«
Oui, oui, » dit l'intéressé. « Êtes-vous celui qui doit... »«
Nous allons voyager ensemble, »
coupa Trévise impassible, à ce qu'on m'a dit. « Mais vous n'êtes pas historien. »
« Non, certes pas. » « Vous l'avez dit vous-même, je suis un conseiller, un politicien. »«
Certes, certes. Mais où ai-je la tête? C'est moi l'historien, alors pourquoi s'encombrer d'un second? Vous pouvez piloter l'astronef ?»«
Oui. Je suis plutôt bon pilote. » »«
Eh bien, dans ce cas, voilà une bonne chose de régler. »« Excellent. Je crains en effet, mon jeune ami, que l'esprit pratique ne soit pas mon fort. Aussi, si d'aventure c'était là votre domaine, nous ferions assurément une bonne équipe. »
« Je ne suis pas pour l'heure convaincu de l'excellence de mes capacités en la matière, mais nous n'avons, semble-t-il, guère d'autre choix que d'essayer de former une bonne équipe.
Espérons alors que je saurai vaincre mes incertitudes quant à l'espace. C'est que, voyez-vous, conseiller, je n'y suis encore jamais allé. Je ne suis qu'un vulgaire rampant, si tel est bien le terme. Au fait, aimeriez-vous une tasse de thé ? Je vais demander à Clauda de nous préparer quelque chose. » Après tout, j'ai cru comprendre que nous avions quelques heures devant nous avant le départ. Je suis prêt, toutefois, j'ai pu obtenir tout le nécessaire pour nous deux. Madame le maire s'est montrée particulièrement coopérative. Surprenant d'ailleurs cet intérêt pour le projet.
Vous étiez donc au courant? Depuis combien de temps?
Le maire m'a contacté, voyons...
Ici, Pelorat fronça légèrement les sourcils, comme absorbé dans quelques calculs.
Il y a bien 2 ou 3 semaines. J'en fus, je dois dire, absolument ravi. Et maintenant que je me suis fait à l'idée d'avoir besoin d'un pilote plutôt que d'un second historien, je suis également ravi que ce soit vous, mon compagnon, bien cher ami.
2 ou 3 semaines, répéta Trévise, quelque peu ébahie. Elle préparait donc son coup depuis tout ce temps. Et moi qui...
Il se tut.
Pardon?
« Rien, professeur. J'ai la mauvaise habitude de marmonner tout seul dans mon coin. Si je le crains, une manie à laquelle vous allez devoir vous faire, pour peu que notre expérience se prolonge. »«
Assurément, assurément !» dit Pelorat tout en le poussant vers la table de la salle à manger, où sa gouvernante était en train de leur servir un thé des plus complets.
« C'est un voyage qui s'annonce très ouvert. »
Le maire a bien stipulé que nous pouvions prendre tout notre temps, et que nous avions toute la galaxie devant nous, et d'ailleurs que nous pouvions, où que nous soyons, faire appel aux subsides de la Fondation, en ajoutant bien sûr de nous montrer raisonnables, ce que je lui ai promis bien volontiers.
Il gloussa et se frotta les mains. « Asseyez-vous, mon bon, asseyez-vous. Ce sera peut-être notre dernier repas sur Terminus avant bien longtemps. »
Trévise s'assit et demanda. « Avez-vous de la famille, professeur ?»«
J'ai un fils. » Il est à l'université de Santani, en faculté de chimie ou quelque chose dans ce genre, il me semble. Pour ça, il tient de sa mère. Nous sommes séparés depuis longtemps. Aussi, voyez-vous, je n'ai rien ni personne qui me retienne ici.
J'espère que vous êtes dans le même cas.
Mais prenez donc des sandwichs, mon garçon.
Pas de fil à la pâte pour l'instant, non. Une femme de temps en temps, ça va, ça vient.
Oui, oui. C'est bien agréable tant que tout va bien, et encore plus une fois qu'on a compris qu'il ne fallait pas prendre ça au sérieux. Pas d'enfant, si je ne me trompe?
Aucun.
Parfait. Vous savez, je me sens tout à fait de bonne humeur. J'avoue avoir été d'abord quelque peu refroidi par votre arrivée, mais je vous trouve à présent des plus revigorants. Ce qu'il nous faut, c'est de la jeunesse, de l'enthousiasme, et quelqu'un qui sache s'y retrouver dans la galaxie, car nous sommes embarqués... dans une grande quête, voyez-vous. Une quête en tout point remarquable.
Le visage de Pelorat, comme sa voix habituellement si calme, s'animèrent soudain de manière surprenante, sans pour autant qu'on pût déceler de changements notables dans ses traits ou son intonation.
Mais je me demande si l'on vous a parlé de tout ceci.
Trévise plissa les paupières. Une quête remarquable, dites-vous?
Assurément, oui. une perle de grand prix est dissimulée parmi les dizaines de millions de mondes habités qui peuplent la galaxie, et nous n'avons que l'ombre des plus vagues indices pour nous guider. La récompense n'en sera que plus grande si nous parvenons à la découvrir. Si vous et moi pouvons y arriver, mon garçon, Trévise, devrais-je dire, je m'en voudrais de paraître paternaliste, nos deux noms résonneront dans l'histoire jusqu'à la fin des temps.
Cette récompense dont vous parlez, cette perle de grand prix, je parle comme Arcadie Darrel, vous savez, la romancière, lorsqu'elle évoque la seconde fondation, n'est-ce pas? Pas étonnant que vous ayez l'air surpris.
Pellerat rejeta la tête en arrière, comme s'il allait éclater de rire, mais il se contenta de sourire.
Non, rien d'aussi stupide et futile, soyez rassuré.
Alors si vous ne parlez pas de la seconde fondation, de quoi parlez-vous donc?
Pellerat retrouva soudain un ton grave, presque d'excuse.
Ah, le maire ne vous a donc rien dit?
C'est curieux, vous savez.
J'ai passé des décennies à reprocher au gouvernement son incapacité à saisir l'importance de mes recherches, et voilà maintenant que le maire Brano se montre soudain d'une générosité remarquable.
Oui, dit Trévise sans chercher à cacher son ironie. C'est une femme qui sait remarquablement bien dissimuler ses dons philanthropiques. Mais elle ne m'a pas dit de quoi il retournait.
Vous n'êtes donc pas au courant de mes recherches?
Hélas non. J'en suis désolé.
Non, non. Inutile de vous excuser, c'est parfaitement compréhensible.
On ne peut pas dire qu'elles ont eu un grand retentissement.
Alors, permettez-moi de vous l'annoncer moi-même. Vous et moi, nous allons partir à la recherche et à la découverte, j'en suis certain car j'ai mon idée là-dessus, de la Terre.